Alors les corticostéroïdes. Les corticostéroïdes ont été mis, enfin, co-développés par Philippe Hensch au début du siècle. Et c'était un véritable miracle, plutôt on a cru au miracle, parce que les gens qui ont pris des corticostéroïdes se sont cru guéris. Les gens qui souffraient depuis des années d'une polyarthrite rhumatoïde, d'un lupus ou d'une autre maladie, ont pris ces corticostéroïdes, et en trois jours, ils se sentaient guéris. À tel point que Raoul Dufil, le peintre, qui a entendu parler de ça, a fait ni une ni deux, il a traversé l'Atlantique pour aller rencontrer Philippe Hensch. Philippe Hensch lui a donné des corticostéroïdes. Raoul Dufil était miraculeux pendant quelques semaines, mais quelques semaines après, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a pris des doses excessives de ces corticostéroïdes qui ont énormément malheureusement de dépendance. Donc les corticostéroïdes sont des médicaments magiques pour le court terme, mais on ne peut pas utiliser sur le long terme parce que les doses qu'il faudrait utiliser sont excessives, elles ne sont pas tolérées, entraînent beaucoup trop d'effets secondaires. Les effets secondaires sont multiples, il y a le diabète, il y a l'atrophie cutanée, la fragilité capillaire, l'ostéoporose, la prise de poids, les œdèmes, l'insuffisance corticosurrénalienne, raison pour laquelle il ne faut pas arrêter tout d'un coup les corticostéroïdes. Si on en a pris pendant longtemps, si on en prend pendant une semaine ou deux, c'est pas un problème. On peut les arrêter d'un coup, même pendant un mois, on peut les arrêter d'un coup. Mais si on en prend trop longtemps, il ne faut pas les arrêter d'un coup. Et puis, ça favorise les ulcères, et donc Dufy est mort d'un ulcère. Alors, ça ne l'a pas empêché de faire des belles peintures avant de mourir, mais malheureusement, il est mort. Raison pour laquelle il faut d'autres médicaments. Alors, parmi les autres, il y a les traitements immunosuppresseurs classiques. Il y a le méthotrexate. Le méthotrexate est un médicament qu'on utilise beaucoup dans la polyarthrite rhumatoïde. On peut l'utiliser aussi avec succès dans le syndrome de Sjögren et surtout pour les atteintes articulaires, il est souvent assez efficace. Mais malheureusement, incomplètement efficace et il y a relativement peu de patients qui arrivent à s'en sortir uniquement avec du méthotrexate. Qui d'entre vous dans la salle prend du méthotrexate encore? Donc il y en a pas énormément. Et il est certainement efficace, c'était bien montré, il est efficace, c'était bien montré dans la polyarthrite, c'était très mal démontré dans Sjögren. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui souffrent du Sjögren et les bonnes études sur le syndrome de Sjögren manquent. Donc on n'a malheureusement pas pu bien évaluer l'efficacité de beaucoup de médicaments. Donc des effets parfois puissants, mais généralement insuffisants. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'entre pas tout de suite en action, il faut attendre 2 à 4 semaines avant de percevoir les effets. Il y a beaucoup de patients qui se découragent à cause de ça. Et puis en plus, il y a beaucoup d'intolérance au méthotrexate, notamment les nausées. Il y a des patients qui simplement, en voyant l'emballage, commencent à avoir des nausées et à vomir. Ça peut arriver très très bien. Donc,
il faut changer l'emballage.
Et puis, des diminutions des globules, des plaquettes, des ulcérations buccales, des inflammations du foie, enfin toutes sortes de réactions qui sont réversibles. Globalement, elles sont réversibles, mais elles diminuent quand même l'utilisation possible du méthotrexate, surtout à bonne dose. Mais on continue quand même à l'utiliser beaucoup, ça reste un des premiers traitements de la polyarthrite rhumatoïde et un des bons traitements du syndrome de Sjögren. La RAVA a des effets qui sont semblables à ceux du méthotrexate, des mécanismes d'action d'ailleurs qui sont semblables aussi. Il est assez efficace, plus ou moins comme le méthotrexate. Il est mieux toléré que le méthotrexate, mais il a aussi des effets secondaires. Et un de ces effets secondaires, c'est de favoriser les polyneuropathies, donc les atteintes des petits nerfs qui vont partout, mais une polyneuropathie sera beaucoup plus perceptible dans les extrémités. Il y a un long trajet des petits nerfs, notamment dans les pieds, donc. Et cet ARAVA peut provoquer ce type de problème. Et comme ça existe déjà dans le syndrome de Sjögren, c'est souvent difficile de l'utiliser parce qu'on ne sait pas faire la part des choses bien entre une atteinte du syndrome de Sjögren ou un effet secondaire de l'ARAVA. Et puis donc, voilà tous les effets secondaires de l'ARAVA. Je crois que ce n'est pas la peine de rentrer en détail, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Pardon ? Alors, ça dépend. C'est bien que vous posiez cette question. autant avoir le Sjögren que tout ça. Ça dépend. D'abord, je dirais ça dépend, parce qu'il y a des Sjögren beaucoup plus graves que tout ça. Mais ensuite, tout ça, c'est ce qui peut arriver. Et la plupart du temps, ça n'arrive pas. La plupart du temps, une personne développe un ou deux effets secondaires. Mais quand on lit effectivement le mode d'emploi de ces médicaments, on est souvent affolé, découragé, on arrête. Souvent d'ailleurs, on essaye, on est tellement persuadé qu'on ressent des symptômes, qu'on va majorer cette sensation de symptômes, on ressentira des effets secondaires qui n'existent pas forcément, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, qui est bien écrit. Et donc il faut réaliser que ces effets secondaires peuvent survenir, mais ce n'est pas du tout une fatalité. Et si vous visez les effets secondaires de l'aspirine, c'est la même chose. Et si vous visez les effets secondaires des sucettes qu'on achète à un niveau, vous aurez aussi beaucoup d'effets secondaires possibles.
C'est le flunomide de nom, je ne sais pas quoi.
Le flunomide, exactement. Araba, c'est le flunomide.
Alors, moi, je peux vous dire, en fait, j'ai essayé, là, ça fait un mois et demi, j'avais des problèmes articulaires, psoriasis. Et puis là, depuis 3-4 jours, le psoriasis sèche complètement. Et puis j'ai moins de douleurs articulaires.
Ah oui, non, c'est un bon médicament. C'est pour ça que je le mets sur la liste. Hein. C'est un bon médicament, mais il a des limites. Donc on ne peut pas l'utiliser chez tout le monde. Alors, il y a les autres immunosuppresseurs classiques. L'Imlurec, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps, qu'on utilise dans les greffes, qu'on utilise d'abord dans les greffes. C'est un médicament qui est très bon marché, ça c'est un de ses avantages. Mais à part ça, c'est un médicament qu'on connaît bien et qui a souvent des effets spectaculaires chez certains patients. Alors je vous dis, chez certains patients, ça peut vous paraître bizarre qu'il y ait tellement de différence d'un patient à l'autre. Mais on commence à percevoir un peu mieux pourquoi il y a tellement de différences. C'est parce que c'est pour beaucoup de raisons. Mais une des raisons, c'est que toutes ces maladies, la polyarthrite, le syndrome de Sjögren ou lupus, les maladies cousines, sont des maladies dites polygéniques, qui sont déterminées non pas par un seul gène, mais par beaucoup de gènes. Et maintenant, on a mis en évidence, on a identifié des dizaines et des dizaines de variants géniques qui sont associés avec telle ou telle maladie. On en est à plus de 100 pour la polyarthrite rhumatoïde, beaucoup moins pour le Sjögren parce qu'on l'a moins étudié. C'est certainement la même chose pour le lupus. Et puis, les différents patients vont hériter de leur père et de leur mère un lot de gènes différents d'un patient à l'autre. Et certains de ces gènes, d'ailleurs, sont partagés par plusieurs maladies, par la polyarthrite, par le lupus, par la spondylarthrite, par le Sjögren, par les hépatites auto-immunes, enfin, par toutes sortes de maladies. Raison pour laquelle certains patients auront telle ou telle atteinte, d'autres telle ou telle atteinte, et d'autres telle ou telle atteinte encore. Et puis en plus, il y a tous les facteurs de l'environnement. La génétique ne joue qu'un rôle petit dans ces maladies. Quand je dis petit, ça veut dire que ce n'est pas tout, ça joue un rôle important, bien sûr. Mais vous pouvez avoir des jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes, et l'un développera la maladie et l'autre pas. Donc les facteurs de l'environnement jouent un rôle. On commence à les comprendre un peu mieux, mais pas encore bien. Et donc c'est un ensemble de toutes sortes de choses qui fera que la maladie de telle ou telle personne prendra cette forme-là ou une autre forme. Et si on étudie la biologie de différents patients avec un syndrome de Sjögren, même pour la biologie simple, on aura des différences. La CRP sera très élevée chez l'un, pas élevée chez l'autre. La vitesse de sédimentation variera aussi. Le fait qu'il y ait une diminution des globules blancs aussi. Et si on fait de la biologie plus fine, on mettra en évidence encore plus de différences. Et puis il y a des différences qu'on ne sait pas encore mettre en évidence. Et le futur de la médecine, c'est ça, c'est d'arriver à mieux caractériser les caractéristiques exactes de la maladie de chacun et d'ensuite lui proposer des traitements adaptés. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité d'un patient à l'autre, qu'on a un certain nombre de médicaments qui marchent bien chez certains et mal chez eux et inversement chez d'autres. Et puis que il faut tâtonner très souvent, il faut tâtonner, essayer, sans véritablement savoir. Et ça peut être très décourageant pour les patients, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le médecin comme ça essaye ce médicament, il dit « Ah non, ça ne marche pas, bon, on va essayer ça ». Ça ne fait pas très sérieux, mais malheureusement, à l'époque actuelle, c'est ça qu'on est très souvent obligé de faire. On a un certain nombre d'idées, on sait un certain nombre de choses. On sait que certains médicaments marchent mieux que d'autres. D'une manière générale, statistiquement, le MabThera fait partie de ces médicaments. C'est probablement le plus efficace à l'heure actuelle. Mais malheureusement, il faut souvent encore tâtonner. Alors l'immurel qui est très souvent utile chez certains patients, mais pas chez tous. Et il peut être par contre utilisé en association, par exemple avec le MabThera, par exemple avec d'autres médicaments. Le gros avantage de l'immurex, c'est qu'il peut être utilisé pendant la grossesse. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui peuvent l'être, mais celui-là peut. On a maintenant beaucoup d'expérience avec l'immurex. Le CellCept ressemble beaucoup à l'immurex, mais il est plus efficace, généralement mieux toléré. Son gros inconvénient, c'est que lui n'est pas utilisable pendant la grossesse. Il est encore un peu expérimental dans la mesure. On le connaît très bien dans d'autres maladies comme dans le lupus. Vous savez donc probablement tous que le lupus est une maladie très cousine, c'est-à-dire qu'il se chevauche très souvent avec le syndrome de M. Grun. Le CellCept est extrêmement efficace, c'est un des meilleurs médicaments à l'heure actuelle dans le lupus, mais on n'a pas encore assez d'expérience dans le syndrome de M. Grun. Cela dit, on l'utilise de plus en plus. Quand on tâtonne, on utilise très souvent le CellCept. Et il y a probablement parmi vous des gens qui utilisent du CellCept.
Ça, c'est en comprimé aussi ou pas ?
C'est les comprimés, oui. Personne ?
Oui, non.
Oui.
Ouais. Et puis, ça a fait quelque chose ?
Ben, ça a stabilisé mon intervention. Ben, pas sur le...
J'ai une question.
Oui.
Et sur les enfants, sur les adolescents,
Alors, tous ces médicaments peuvent être utilisés chez les adolescents, bien sûr, en faisant attention, chez les jeunes filles qui pourraient tomber enceintes, parce que certains médicaments, comme notamment l'Arava, doivent être arrêtés longtemps, en tout cas 3 mois avant d'initier une grossesse. Mais d'une manière générale, on les utilise chez les enfants. Alors, les anti-TNF. L'anti-TNF était la première classe de médicaments dits biologiques. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on l'utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, on a beaucoup d'expérience. Ça a transformé le pronostic et l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde, mais ils sont peu efficaces dans le syndrome de Sjögren. Pour des raisons multiples, mais notamment, d'une manière générale, ils sont peu efficaces dans les maladies qui sont associées à des auto-anticorps comme le lupus ou le syndrome de Sjögren. Ou par exemple, les vasculites en cas, qui sont d'autres maladies à auto-anticorps, là, les anti-TNF sont peu efficaces. Très efficaces dans la polyarthrite rhumatoïde, ils permettent d'arrêter ces fameuses érosions qui caractérisent la polyarthrite rhumatoïde. C'était les premiers médicaments avec lesquels on a vraiment bien bloqué les érosions, mais malheureusement, dans le Sjögren, ça marche relativement bien, mal. Il y a quelques cas décrits de patients qui ont bien répondu aux anti-TNF, peut-être que une ou deux personnes parmi vous en prennent, mais d'une manière générale, c'est peu efficace. Et les gens, par exemple, qui avaient une polyarthrite rhumatoïde associée à un syndrome de Sjögren secondaire, qui prenaient un anti-TNF, allaient souvent mieux pour la polyarthrite, mais avaient toujours un syndrome sec très marqué, et quand ils ont passé au MabThera, ont eu une nette amélioration de leur syndrome sec. Alors, quels sont les autres biologiques ? Eh bien, il y a justement ce fameux MabThera, qui est donc un anticorps contre certains globules blancs, dont les lymphocytes B. Ce sont des globules blancs qui produisent des anticorps, notamment les auto-anticorps qui sont généralement présents dans le syndrome de Sjögren, qui s'administrent sous la forme de perfusion, simple, double, tous les 6 à 12 mois, parfois très efficace à long terme, notamment sur certaines manifestations extra-articulaires. Donc, c'est probablement maintenant le meilleur médicament pour le syndrome de Sjögren, mais ça ne marche pas toujours immédiatement. Il faut souvent insister. Il ne faut pas hésiter à répéter une ou deux perfusions après 6 à 12 mois de manière à obtenir un effet. Et puis ensuite, on a souvent un effet qui devient progressif. Et puis par contre, quand ça marche bien, après, on peut parfois ralentir la fréquence des perfusions tout en gardant de bons effets. Alors, il a des effets secondaires, bien sûr, ce sont les infections. Avant tout, les infections. Donc, il faut prendre garde à ça. Il faut faire un certain nombre de contrôles sanguins pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'émission des anticorps totaux. Et puis, si on fait attention, généralement, ça va. Mais il y a certains patients qui, après, après beaucoup d'années, ne peuvent plus prendre le MabThera parce qu'il a trop diminué les anticorps et que ça ne devient plus possible. Cela dit, ce n'est pas une catastrophe parce que quand on l'arrête à ce moment-là, les anticorps progressivement remontent. On peut même donner des perfusions d'immunoglobuline et puis ça se passe par quelques infections. Mais généralement, la plupart du temps, on arrive à contrôler la situation, à rétablir la situation. Mais il y a eu quelques cas, quelques descriptions de cas particulièrement graves d'infections dues au MabThera. C'est une des raisons pour laquelle on ne l'utilise pas en première intention. Mais la plupart du temps, c'est survenu chez les gens qui ne prenaient pas le MabThera pour une maladie comme le Sjögren ou comme le lupus, mais pour un lymphome. Le MabThera est un traitement qu'on utilise dans le lymphome à peu de doses. Et dans ces lymphomes, où il y a d'autres médicaments d'ailleurs qui sont donnés, qui contribuent au risque d'infection, là on a eu ces cas d'infection graves. Les cas d'infection très graves sont à côté, à l'échelle mondiale, sur les doigts de la main. Donc c'est peu de choses. Mais par contre, si on va sur Internet, on peut se faire peur en voyant quelques cas d'infection grave. Parmi les autres biologiques prometteurs, il y a Lorentia. Lorentia a l'avantage d'être perfusé toutes les 4 semaines. On peut maintenant le prendre aussi sous forme d'injection sous-cutanée, donc que les patients peuvent s'administrer eux-mêmes. Alors le fait qu'on fait des injections toutes les 4 semaines et pas tous les 6 mois, ça peut être un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Parce que si on développe une infection, justement, avec le MabThera, on est embarqué dans une immunosuppression qui dure pendant 6 mois. Alors que là, on a une immunosuppression beaucoup plus courte. En plus, c'est un médicament qui est très bien toléré. Alors, j'ai un ou deux patients qui ont dit que c'était miraculeux. Il faut voir encore avec le recul comment ça va se passer. Il y en a d'autres qui ne répondent pas, comme toujours avec tous ces médicaments, malheureusement. Mais ça fait partie des médicaments avec lesquels ça vaut la peine, encore une fois, de tâtonner.
J'ai une question pour le MabThera. Moi, je travaille, je suis beaucoup en contact avec les microbes. Je suis en première loge, ce ne serait pas très recommandé alors.
Alors, alors, je dirais que malheureusement, tous les médicaments sont efficaces, hein, auront cet inconvénient-là. Mais c'est vrai que, avec le fait que l'immunosuppression est prolongée avec le MabThera, vous risquez un risque supplémentaire. Mais, d'un autre côté, on a cette possibilité de perfuser les immunoglobulines, s'il le faut. Donc, je dirais que c'est pas vraiment une contre-indication rédhibitoire.
Moi, je travaille à l'hôpital, puis j'ai eu du MabThera, donc j'ai pas eu d'infection. Bon, après, voilà, c'est ma situation. Hein,
oui. Je veux
dire, j'ai pas eu plus d'infection ou quoi que ce soit, alors que je travaille tout le temps avec des gens malades. Ouais. Mais bon, chez moi, ça n'a pas marché, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, ça regarde ça.
Alors, il y a encore dans les autres biologiques l'Actemra. Ça fait partie des biologiques dont on dispose déjà maintenant. C'est un anti-L6 qu'on utilise beaucoup dans l'érythrite rhumatoïde, qui probablement est efficace chez certains patients, mais on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Mais ça fait partie aussi des médicaments avec lesquels on peut tâtonner. Il y a beaucoup de médicaments qui sont en développement. On vit une époque en ce moment fantastique de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui se développent, qui sont sortis, qui vont sortir. Il y a une recherche qui continue à se faire malgré les coûts de ces médicaments. Il faut dire qu'il y a des intérêts financiers pour ces compagnies pharmaceutiques à faire des gros efforts pour les chercheurs dans les universités étudier tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'avenir, je dirais, de potentiel pour des médicaments encore meilleurs que ceux dont on dispose maintenant.
Juste un contrôle, quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir bien capté. Sur celui qui finit en TA, je ne me souviens plus, le MabThera. Oui, MabThera.
Oui.
Est-ce que ça a un impact aussi positif sur le syndrome sec?
Oui, oui. D'accord. Oui. Alors, il est mal démontré. Ah. Il est mal démontré. Les études qui l'ont fait n'ont pas réussi à bien le démontrer statistiquement. Mais il faut savoir que c'est très difficile de démontrer un effet sur les grandes populations à cause de la variabilité des patients, à cause du temps que ça prend pour montrer un bénéfice. Et par exemple, le MabThera, pour revenir à lui, qui est considéré maintenant comme un des deux meilleurs médicaments pour le lupus, n'a pas fait l'objet d'une étude qui a bien montré statistiquement que vraiment ça marche. Les études, il y a deux études qui ont été faites sur des centaines de patients, mais on n'a pas pris les bons endpoints, c'est-à-dire les bons paramètres d'évaluation pour voir si ça marchait ou pas, et ces études sont restées négatives. Alors que d'autres études avec des médicaments que tous les gens qui ont l'expérience du lupus considèrent comme moins efficaces, comme par exemple Benlysta, ont fait l'objet d'études positives. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tenu compte de ces résultats pour modifier les paramètres d'évaluation et puis finalement ils ont obtenu des résultats. Il y a aussi la façon d'interpréter les statistiques. Enfin, il y a tout ça pour dire que, c'est pas parce que ça n'a pas été démontré que ça n'existe pas. Même si, si c'est bien démontré que l'effet statistiquement n'est pas valable, au niveau individuel, ça peut être efficace. Et puis, finalement, il faut associer d'autres médicaments, vous trouvez d'autres molécules, il y en a d'autres encore une fois qui sont en développement.
On peut associer un biologique et un classique.
Oui, absolument. Ça se fait très souvent. Je dirais la plupart du temps. Alors maintenant, j'arrive à la dernière diapositive sur des médicaments. C'est les médicaments qu'on peut utiliser pour les manifestations neurologiques. Donc, le syndrome de Sjögren, quand il est sévère, peut entraîner des manifestations neurologiques qui peuvent être périphériques, notamment sous la forme de ces polyneuropathies qui peuvent être très douloureuses et gênantes. Mais sur des syndromes centraux, des méningites, des symptômes cérébraux, des chorées, des dépressions, des syndromes démyélinisants, ça ressemble à la sclérose en plaques, ça n'en est pas une, et des faiblesses, etc. Ça, c'est vraiment les syndromes de Sjögren grave. Hein. C'est rare, mais ça existe. Alors, pour ces manifestations neurologiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut de nouveau utiliser le MabThera. Le MabThera est d'ailleurs un très bon médicament pour la sclérose en plaques, hein, puisque je viens de parler d'elle. On l'utilise de plus en plus dans la sclérose en plaques, et un médicament, le frère du MabThera, un autre médicament, de lymphocyte B, on l'utilise aussi. Et puis, on utilise parfois des immunoglobulines. Et dans des cas de polyneuropathie, les immunoglobulines peuvent avoir des effets souverains et spectaculaires. Mais là, il faut travailler avec un neurologue, il faut voir s'il y a des signes de polyneuropathie qui peuvent correspondre, parce qu'il y a plusieurs sortes de polyneuropathie différentes, s'il y a des signes de polyneuropathie qui peuvent répondre à ces immunoglobulines, et si c'est le cas, ben, ça vaut la peine d'utiliser des immunoglobulines. Oui.
Est-ce que vous avez, comme dans les manifestations neurologiques, est-ce que vous avez des cas avec des gens qui ont des vertiges? Parce que moi, c'est mon cas depuis des années, puis j'ai jamais tellement su si ça venait du Sjögren ou pas. Mon rhumatologue dit ça peut, mais c'est, on ne peut pas le prouver.
Oui, alors ça fait partie du cortège de symptômes. Ce n'est pas forcément le cas chez vous, hein, mais ça fait partie du symptôme. Du cortège de symptômes pour plusieurs raisons. Ce qui peut d'abord être lié à des manifestations neurologiques, et puis aussi neurologiques directement pour la sensation des vertiges. Et puis, il y a souvent des atteintes du système dit neurovégétatif, c'est-à-dire système sympathique-parasympathique qui régule la tension artérielle, les battements du cœur, etc. Et ça peut être affecté dans
un problème aussi justement de tension qui est souvent basse, de cœur qui est un peu.
Alors c'est pas la seule cause, ça peut être autre chose, mais ça pourrait. Et si vous avez d'autres signes de polyneuropathie, alors...
Moi j'ai une neuropathie des petites fibres.
Oui, voilà. Alors ça, dans la neuropathie des petites fibres, justement, ça vaut la peine souvent de donner des traitements assez énergiques, parce que ça peut être effectivement douloureux, pénible.
Parce que, alors moi, j'ai tout ce que vous avez, j'ai fini au CHUV, j'ai une paralysie vraiment faciale, bilatérale, j'ai des vertiges. Depuis, j'ai des fourmillements dans la tête, donc ça fait 2 ans. Je ne sais pas quel médecin il faut aller consulter pour ça. Mon neurologue me dit, ben, vous venez quand ça va empirer, mais c'est difficile à décrire ce que je vis vraiment, mais c'est au quotidien que ça m'handicape. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'atteintes neurologiques avec cette maladie, mais je ne trouve pas un neurologue au CHUV non plus. C'est, je ne sais pas chez qui aller pour
comprendre vraiment ça. Alors moi, je connais moins bien les neurologues du CHUV. Je peux vous donner quelques noms de neurologues sur Genève.
Je crois que je vais sur Genève parce que je me sens très seule dans ça. Et puis c'est vrai qu'alors mon médecin qui est rhumatologue, c'est peut-être moins son domaine. Mais... Et ça m'handicape beaucoup plus les douleurs neurologiques que particulières.
Mais ce que vous dites, c'est du quotidien. Moi, c'est plus aussi tout ce qui est symptômes.
Oui, mais j'ai quand même fini avec une paralysie, donc je pense que c'est quand même peut-être à prendre au sérieux. Enfin, en tout cas, pour mon cas, je n'ai pas envie d'en faire une. Et puis, on ne veut toujours pas me donner ce map terra, donc je suis surprise.
Qui est votre rhumatologue?
Bon, j'ai un bon contact avec, je ne voudrais pas, je vais vous le donner après, je vais en médecine, mais je pense que c'est un bon, mais tout le map terra, là, il y a un blocage, alors que le syndrome sec, j'ai plus de salive, et c'est 100% sec, et je suis surprise qu'on refuse ce map terra avec ces fourmis dans la tête, ça m'handicape pour aller travailler, pour les vertiges, ça me prend plein de travail, et je travaille avec c'est très handicapant.
Alors, ça, je suis persuadé que ça peut être très handicapant, absolument. Alors, à la décharge du médecin, les vertiges sont bien sûr non spécifiques. Ils peuvent survenir dans toutes sortes d'autres situations, notamment en stress et l'anxiété. Hein. Ça ne paraît pas être autre part.
Oui, ça peut être le stress. Ouais. Non, je dois quand même dire.
Par exemple, l'anxiété d'avoir une maladie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qui fait mal, etc., peut faire qu'on est anxieux. L'anxiété peut s'associer, par exemple, à l'hyperventilation, et l'hyperventilation peut être une source de vertige. Donc il peut y avoir beaucoup de choses. Alors peut-être que votre médecin a cette impression-là, mais en tout cas, il faut chercher si vous avez une neuropathie. Notamment une neuropathie des petites fibres qui n'est pas facile à mettre en évidence.
Ouais, hein. Et ça, je l'ai aussi. Hein. Je ne sens plus le bout des doigts, les orteils.
Ça, ça arrive aussi régulièrement, mais quand on sent les mains, quand je lui demandais, il me dit écoutez, un jour où ça serait vraiment grave, on vous hospitalise et puis on s'occupe de ça. Mais avant,
c'est
considéré entièrement.
Alors, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup des choses que je vous ai dit là qui ne sont pas connues depuis longtemps. Hein. Et ces médicaments du map terra, par exemple, on n'a aucune étude qui montre que dans le CUVON, c'est vraiment très efficace. On a maintenant quelques petites études qui montrent que ça l'est un peu.
On
n'a pas beaucoup de recul, exactement. On a un bon recul sur la polyarthrite rhumatoïde. Alors ça, c'est peut-être l'avantage des rhumatologues, c'est qu'ils sont habitués à la polyarthrite rhumatoïde qui est traitée depuis longtemps avec ce type de médicaments. Et ils ont moins peur d'utiliser ces médicaments, ils les connaissent mieux souvent, en tout cas pour certains d'entre eux, et ils les proposeront plus facilement, sauront mieux comment interpréter l'évolution, etc. Mais nous, il y a des immunologues qui connaissent ça très très bien.
Alors peut-être, j'ai une dernière question, je ne vais pas monopoliser, mais aussi ce qui est curieux dans tous les symptômes, je pense que j'ai une forme sévère qui a quand même été décrite de la maladie, mais la vitesse de sédimentation, elle, ça ne m'apparaît pas du tout là-dedans. Je pense que c'est ça qui fait un blocage pour mon rhumatologue.
Ça, c'est très possible.
Je suis sûre que c'est ça maintenant à vous entendre.
Ça, c'est très possible. Alors ça, c'est un des problèmes qu'on a avec le diagnostic. C'est un problème majeur qu'on a quand il faut interagir avec l'AI ou avec des assurances, parce que souvent c'est difficile de démontrer l'activité de ces maladies. Alors maintenant, on dispose de tests un peu plus fins, plus sensibles, notamment des levages de cytokines. Donc on peut doser IL-6, on peut doser TNF, l'INRA, enfin d'autres cytokines qui jouent un rôle dans ces maladies immuno-inflammatoires. Et on commence à bien maintenant mettre en évidence le fait qu'il y a des gens qui ont des maladies des formes très inflammatoires, une très forte augmentation de ces cytokines, mais une CRP-IBS tout à fait normale. Mm-hmm. Et c'est une des caractéristiques du CUVON, c'est que la CRP et la vitesse de sédimentation restent très souvent normales.
Donc
oui.
C'est souvent, c'est pas
très légèrement, mais toujours oui. Très légèrement.
Exactement.